Il m'a paru intéressant de poser les mêmes questions aux représentants de ce qui est le plus actuel dans la littérature française, en l'occurrence à Philippe Sellers, et de lui demander tout à la fois comment il lit Dante et comment aussi il comprend à travers cette lecture le choix que nous avons fait d'un texte de Borges.
Mais en effet, pourquoi Dante peut-il être considéré comme aujourd'hui un auteur exemplaire et un auteur révolutionnaire? Je pense qu'il faut insister d'abord sur une chose, c'est que le projet de Dante se situe entièrement dans ce mythe qui a été réactivé au début du siècle par un certain nombre d'écrivains et qui est le mythe du livre. C'est une chose extrêmement curieuse de constater que ce symbolisme du livre, qui a été très actif dans toute l'Antiquité et dans tout le Moyen-Âge, s'est ensuite perdu pour reparaître et ressurgir brusquement avec des écrivains comme Mallarmé et comme Joyce, par exemple, puisque vous avez parlé de Joyce. Qu'en est-il, en tout cas pour Dante, de ce symbolisme du livre? Il est extrêmement complexe, extrêmement riche, et je crois que nous tenons là la clé de la Divine Comédie. Dante, explicitement, se situe comme quelqu'un qui veut écrire un livre qui serait le livre des livres, en quelque sorte. Pourquoi? Parce que d'abord, il prend sa référence majeure dans l'Antiquité avec Virgile. La Divine Comédie ne peut être écrite au sens littéral que par rapport à Virgile. C'est-à-dire que par rapport à un certain état du latin, à un certain état poétique du latin, dont la référence idéale est Virgile.
Même par rapport à un certain schéma qui est celui de l'Énéide.
Et bien entendu, l'Énéide, et c'est si vrai, si vous voulez, que on peut dire que Virgile, dans la Divine Comédie, en tant que personnage, entre guillemets, représente tout simplement, est le simple représentant de l'Énéide au sens poétique, au sens linguistique. D'autre part, ce symbolisme du livre pour Dante est extrêmement vaste, puisqu'il recouvre non seulement ce qu'il appelle le livre de la mémoire, tel qu'il est employé dans la Vita Nova, mais aussi le livre des actes, le livre du passé, si vous voulez. Il recouvre aussi le fait que le monde est un livre, et en même temps, le fait que tout écrivain et tout penseur à ce moment-là a se confronter avec ce livre, qu'est l'écriture avec un grand E, qui est tout simplement évidemment la Bible. Par conséquent, je crois que Dante, dans son projet de totalisation, essaye de vivre complètement cette situation extrêmement vaste qui est celle de l'écriture d'un livre qui résumerait et qui serait la totalisation de tous les livres au moment où il se place. Bien entendu, ça va donner, à l'époque de Dante, un certain type d'œuvre qui aura trait à une certaine mythologie qui n'est plus la nôtre, bien entendu, ou qui est sensiblement morte et déplacée. Mais enfin, je crois qu'il faut se tenir à ce projet extrêmement radical de totalisation du langage et du livre pour saisir dans son entier l'œuvre de Dante et la manière dont il va vivre ce livre, n'est-ce pas, en tant que sujet.
Cela revient à dire que l'entreprise de totalisation dont nous parlons depuis le début est à saisir dans l'idée même d'un livre des livres, et que cela concerne les modernes en cette mesure que pour eux le livre n'est plus un instrument mais une sorte de champ autonome, le domaine propre de l'écriture qui renvoie à soi.
Je voudrais plutôt expliciter ce thème du livre non pas comme objet mais comme sujet en quelque sorte, c'est-à-dire en tant qu'il constitue celui qui en fait l'expérience au niveau de l'écriture. Pour moi, la Divine Comédie, c'est très exactement Dante se déplaçant entre deux pôles mythiques de la parole, qui est d'un côté un pôle d'illisibilité radicale et de l'autre un pôle de lisibilité absolue. N'est-ce pas ? Pour moi, si vous voulez, l'enfer et le paradis, ce sont en quelque sorte la représentation de deux pôles entre lesquels nous oscillons constamment, en tant que sujet parlant, en tant que sujet existant, c'est-à-dire cette espèce d'opacité totale des signes, et d'autre part, leur transparence absolue. Ce sont deux mythes, bien évidemment. Mais ce qui est exemplaire chez Dante, c'est qu'il va nous faire le récit, et comme l'illustration de ce voyage entre ces deux pôles. Et comment ça se traduit, d'une certaine façon, cette espèce de voyage entre ces deux pôles? C'est évidemment la tour de Babel. L'enfer, c'est évidemment la descente jusqu'au plus profond de l'opacité des signes, qui deviennent, ça on pourrait le vérifier point par point, ça serait trop long, mais une descente qui est à la fois une descente vers l'illisibilité, vers la non-compréhension, vers l'aphasie, le silence, le gel. Le purgatoire, c'est la remontée de cette tour de Babel redressée, avec l'apparition à ce moment-là de tous les arts libéraux, avec la théorie de l'art poétique, le style nouveau, avec l'apparition de la peinture, de la voix, etc. Enfin, je passe. Et le paradis, c'est très exactement, à mon sens, l'accession à ce plan de l'écriture et de la parole et du langage qui est absolument libre et qui s'écrit pratiquement de lui-même, qui se comprend de lui-même. L'enfer, ça serait, si vous voulez, la descente à la fois subjective et objective, d'ailleurs, il n'y a pas de distinction à faire là, dans une espèce de pléthore du signifiant qui est subi, n'est-ce pas, qui est à la fois terrifiante et subie. Le mode d'interrogation dans l'enfer est un mode hésitant, un mode terrifié, n'est-ce pas. Ensuite, nous serions dans le purgatoire, dans ce qu'on pourrait appeler une extension du signifié, dans un mode d'explicitation de plus en plus grand, et ensuite, dans le paradis, nous serions dans une sorte de plénitude du signifiant, où tout s'écrit et se parle d'une façon...
Mais transparence du signifié au signifiant.
C'est cela. Et alors, les métaphores qui sont employées par Dante, de façon extrêmement claire, à mon sens, concernent l'écriture constamment, n'est-ce pas. Dans le paradis, par exemple, vous avez ces flammes qui écrivent, n'est-ce pas. Il y a, par exemple, l'emblème de l'aigle qui représente la multiplicité dans l'unité et qui écrit dans le ciel les lettres d'éligité justiciable, n'est-ce pas. Enfin, je prends cet exemple alors qu'il y en a bien d'autres, c'est constant.
Cela revient au point où nous en sommes, à ceci que non seulement le cosmos dantesque est un cosmos du livre, mais qu'en plus son parcours est un devenir du livre et un passage du livre comme résistance au livre comme transparence ou conscience de soi.
Absolument. Je pense qu'il n'y a pas de distinction à faire là, puisque Dante lui-même s'adresse très clairement à son lecteur, n'est-ce pas ?
Comment cela maintenant nous renvoie-t-il à Borges ?
Eh bien, je pense que Borges a eu conscience de ce qu'il appelle, si vous voulez, l'histoire des métaphores, n'est-ce pas ? Borges est quelqu'un qui s'est rendu compte, en bon philologue qu'il est, en bon philologue, c'est-à-dire aussi en bon amateur de littérature fantastique, d'une certaine façon, que l'histoire du langage à travers les âges était soumise à de très curieuses variations qui étaient souvent inexplicables. Et par exemple, il est certain que la variation, l'apparition, la disparition d'une métaphore comme celle du livre à travers les auteurs est quelque chose d'assez inquiétant, d'assez impressionnant, d'assez curieux. Et je pense que Borges a toujours rêvé justement d'une bibliothèque qui ne serait l'envers d'une bibliothèque de Babel, justement, et qui serait une bibliothèque alors où serait résumé et rendu explicite, c'est un mythe bien sûr, tous les livres du monde et toute l'écriture du monde. Et je pense qu'en cela, il se rapproche, il a médité certainement l'œuvre de Dante.